Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau webinaire organisé par Grisby. Vous le savez, vous nous connaissez maintenant depuis un moment. On prône la diversification, c'est très important quand on s'inscrit dans une logique, une stratégie d'investissement de long terme, d'être bien diversifié à travers ses placements. C'est encore plus important quand on est dans une période pas forcément simple et pleine d'incertitudes. Et à partir du moment où on s'inscrit dans cette logique de diversification de ses placements, il y a une classe d'actifs en particulier qu'il est incontournable d'appréhender aujourd'hui, c'est l'obligataire, le marché obligataire. Si c'est une classe d'actifs qui était assez peu analysée et regardée il y a encore quelques temps, quelques mois, une année ou plus, aujourd'hui ça devient une classe d'actifs totalement incontournable et je suis très heureux avec toute notre équipe Grisby de pouvoir vous proposer ce webinaire. On a trois partenaires experts justement du marché obligataire qui vont nous apporter leur regard, leur vision, leur conviction. Merci à tous les trois d'avoir accepté notre invitation. Je vais d'ailleurs vous laisser la parole. Benoît de Kéren, si tu veux peut-être commencer.
Oui, bonjour à tous, Benoît Solaire, Keren Finance. Alors, Keren Finance est une société de gestion indépendante qui a une vingtaine d'années. On est spécialisé sur l'obligataire puisqu'on gère un peu plus d'un milliard aujourd'hui. Et sur ce milliard, vous avez 80% d'obligataires. Et sur cet obligataire, notre grande spécialité, c'est ce qu'on appelle l'euro high yield. Donc, c'est les catégories les plus basses du marché du crédit. Voilà.
Très bien.
On est une société donc à taille humaine, hein, puisqu'on est 18 personnes à l'intérieur. Et moi, je m'occupe principalement des fonds obligataires avec une personne qui travaille sur l'analyse, notamment l'analyse financière et ESG. On a un deuxième recrutement en cours.
Merci Benoît. Hervé?
Bonjour à toutes et à tous, ravi d'être avec vous ce soir. Donc j'ai la chance, je m'appelle Hervé de Roquefeuille, je suis le directeur commercial de 123IM. Un autre investment manager qui, depuis plus de 20 ans, propose des solutions en non coté à des épargnants français qui souhaitent se diversifier sur cette classe d'actifs du non coté, avec cette volonté de la démocratiser, de la rendre la plus accessible possible, avec, un peu à l'instar de mon petit camarade d'avant, une très forte expertise, puisque il y a plus de la moitié de nos encours qui sont gérés en dette privée, en dette non cotée, on évoquera après ce que c'est, chez 123IM depuis plus de 20 ans, avec un peu plus de 2 milliards et demi qui ont été injectés dans l'économie française ces 20 dernières années.
Parfait, merci Hervé. Gustave?
Bonjour à tous, Gustave de Boeuf-Roger. Je travaille chez Equitim, je suis responsable des partenariats. Equitim, c'est une société qui propose notamment des solutions de placement sur mesure et donc des produits structurés en grande majorité. Voilà. Le but, c'est de créer ces solutions sur mesure selon la demande des clients depuis 2007. Aujourd'hui, on a traité plus de 6 milliards de produits depuis notre création, dont plus d'un milliard l'année dernière, uniquement sur mesure. Donc voilà.
Excellent. Merci une nouvelle fois à tous les trois. On vous a évidemment invité parce que vous avez développé chacun une forte expertise sur la thématique qu'on adresse, avec justement un positionnement différent et complémentaire. Et on sera, je suis sûr, très intéressé par tout ce que vous allez nous raconter. Peut-être Benoît, pour commencer, revenir un peu sur ce qu'est le marché obligataire, le contexte actuel et puis les perspectives que vous envisagez. Je te donne la parole et on va peut-être s'appuyer sur le support.
Oui, merci. Déjà, la première chose à dire, c'est que le marché obligataire, c'est le marché le plus vaste du monde, hein, puisque vous avez un nombre de dettes évidemment colossal sur le marché. Et ce qui est intéressant sur le marché obligataire, c'est que c'est un marché qui a été très fortement sous-pondéré les dernières années, puisque vous n'êtes pas sans savoir qu'on a eu les banquiers centraux qui, pendant de nombreuses années, ont injecté massivement la liquidité. Et en fait, sur l'année 2022, je reviens un peu sur ce slide, sur pourquoi il est intéressant de se revenir sur l'obligataire. Vous avez depuis 20 ans, enfin même depuis le début des années 50, mais ça s'est amplifié depuis 20 ans, la théorie moderne du portefeuille qui vous dit que l'optimum généralement d'un portefeuille financier, c'est une approche 60-40, 60 actions, 40 obligataires. Et il se trouve que l'année 2022 a été exceptionnelle à plein d'égards. On a eu la guerre, on a eu les crises sur l'inflation, enfin plein de schémas. Mais vous avez ces deux actifs qui sont les actions et les obligations qui ont combiné des performances extrêmement négatives. Et vous avez eu plusieurs hausses de taux, parce que vous avez eu évidemment des risques d'inflation qui ont complètement explosé les 18 derniers mois, et des banquiers centraux qui ont dû très rapidement réajuster leur politique monétaire pour monter les taux. Et ça a conduit à une destruction de valeur extrêmement importante sur l'obligataire, avec des performances qui, donc, sur des portefeuilles combinés, étaient de l'ordre de moins 15%.
Alors, excuse-moi Benoît, je t'interromps juste une demi-seconde. J'ai oublié de rappeler à l'ensemble de nos participants, s'ils le souhaitent, de poser des questions, bien évidemment. N'hésitez pas, je tâcherai bien sûr de relayer certaines de vos questions auprès de nos intervenants. Je referme la parenthèse. Excuse-moi Benoît.
Pas de problème. Clairement, vous avez sur ce slide, en fait, l'explosion de l'inflation. Je rappelle que les 10 dernières années, l'action des banquiers centraux était plutôt pour lutter contre les risques de déflation ou de stagflation. Et donc, à partir de la fin de l'année 2020 et vraiment sur 2021 et 2022, vous avez eu des inflations qui ont complètement explosé. Dans certains pays de la zone euro, vous avez eu des inflations qui ont monté jusqu'à 20%. Donc vraiment une inflation hors de contrôle, presque digne des pays émergents. Et là, on commence à voir cette inflexion de l'inflation, donc qui est intéressant dans le spectre obligataire, puisque là, vous avez évidemment une normalisation. La vraie question qui va se poser aujourd'hui, enfin même à l'avenir, c'est où va atterrir cette inflation. Probablement, la cible des banquiers centraux, c'est 2%. Ce n'est pas pour tout de suite. On est plutôt sur un schéma où l'inflation devrait faire un plateau vers 3-4%. Mais là où ça redevient intéressant, c'est que vous avez... dans le même temps, des taux, et là vous le voyez bien, notamment sur les taux immobiliers, mais c'est valable aussi sur la rémunération de votre épargne quand vous achetez des obligations, des taux qui sont revenus à des niveaux très intéressants. Vous avez sur ce slide les principaux 10 ans de la zone euro, que ce soit le 10 ans allemand, le 10 ans italien, français. Bon, ce qui est intéressant, c'est de voir que le 10 ans allemand, il y a encore 18 mois, traitait négativement. C'est-à-dire que quand vous achetiez une obligation de l'État allemand il y a 10 ans, vous étiez à moins 0,50%. Voilà. Aujourd'hui, vous êtes plutôt de l'ordre de 2,5%. Sur le 10 ans français, vous êtes de l'ordre de 3%. Mais je crois qu'un de mes camarades va rentrer un peu plus dans le détail sur la dynamique des taux. Alors, pourquoi c'est intéressant? Et le monde obligataire revient un petit peu à la mode. Vous avez vu qu'il y a eu énormément de fonds datés qui ont été lancés récemment. Alors, je pense qu'on ne veut pas forcément mettre en avant notre fonds, mais il est intéressant. L'intérêt de ce slide, c'est de vous expliquer à quoi sert un fonds daté. Un fonds daté par rapport à un fonds plus classique dans le monde obligataire, ça sert en fait à cristalliser un taux de rendement actuariel, et à en fait avoir un profil de risque qui devient de plus en plus faible dans le temps. Comme vous le savez, une obligation en fait a un risque qui est associé, qui est le risque de taux. Et globalement, cette sensibilité diminue à travers le temps. Quand vous achetez un fonds daté, en fait, vous confiez à un gestionnaire la constitution d'un portefeuille qui va avoir des remboursements au fil du temps. Et l'idée de ce type de fonds, c'est qu'à un certain moment, à la dernière VL, vous avez des produits qui sont extrêmement courts et donc plus sensibles au risque de hausse de taux. Donc nous, typiquement, on a un fonds qui s'appelle Karen Recovery 2027, qui est constitué d'obligations donc, qui sont dans la catégorie high yield, donc des catégories un peu plus risquées, mais qui globalement, aujourd'hui, offre des taux de rendement de 7% pour une maturité moyenne du portefeuille, qui est autour de 3 ans.
Tu parles de high yield à l'instant. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, notamment les notations, qu'est-ce que ça signifie le high yield?
Le high yield, qu'est-ce que ça signifie? Alors peut-être que je vais l'illustrer rapidement, donc là c'est un peu les données du portefeuille, mais je voulais l'exprimer plutôt comme ça. Le high yield, c'est des agences, les agences de rating, qui sont trois principales, S&P, Moody's et Fitch. En fait, leur travail, c'est de noter des entreprises. Ils notent les États, mais également les entreprises. Quand vous notez des entreprises, évidemment, vous allez avoir plusieurs critères. Un des critères qui est important, qu'il faut garder en tête, c'est la taille. Quand vous êtes une entreprise qui est inférieure à, par exemple, 2 milliards de chiffre d'affaires par an dans certains secteurs, il est très probable que, quelle que soit votre qualité bilancielle ou votre capacité de générer de la marge, vous soyez en catégorie high yield. Voilà, parce que c'est une question de taille qui est relative. Donc, gardez en tête que effectivement les sociétés high yield sont des sociétés qui sont généralement plus petites, plus cycliques. Ça ne veut pas dire que c'est des mauvaises sociétés ou des très petites sociétés ou qui ont un risque de défaut très élevé. Je vous ai mis pour illustration, par exemple, dans notre fonds, le chiffre d'affaires médian des entreprises dans lesquelles on investit. Vous voyez qu'on est sur un chiffre d'affaires médian de 2,5 milliards d'euros. pour une médiane d'EBITDA, donc de marge d'EBITDA, ce qui en français est plutôt la marge d'EBE, qui est de l'ordre de 17%. Donc vous voyez, vous n'êtes pas vraiment sur des petites sociétés. Chose à garder en tête également, quand vous accédez au marché public de la dette, vous êtes sur des entreprises qui ont une capacité d'émission de dette assez importante, puisque vous voyez, notre souche minimum d'investissement, c'est 250 millions d'euros. Voilà. Les entreprises dans lesquelles on investit ont généralement des souches minimum de 250 millions d'euros.
Quand tu parles de souche, c'est le volume des obligations émises par la société.
Les obligations émises par un émetteur. Donc, prenons un exemple. Je vais vous donner un exemple. Voilà, vous avez quelques noms qu'on a dans le portefeuille. Verisure, Accor, Burger King. Donc déjà, vous voyez que vous pouvez être dans le monde du high yield et être quand même des noms assez connus. Hein. Le groupe Iliad, voilà, tout le monde connaît. Vous avez Ford, Air France, Jaguar Land Rover, Picard. Voilà. Ce qui va déterminer aussi la catégorie high yield, c'est le niveau d'endettement de la société, ce qu'on appelle le levier financier. Et effectivement, quand vous êtes sur des entreprises high yield, le niveau de levier financier est un peu plus élevé. Vous êtes généralement au-delà de 2 fois, 3 fois votre EBITDA. EBE. Donc, c'est-à-dire que vous êtes en gros, il vous faut 3 années d'excédent brut d'exploitation pour rembourser l'intégralité de votre dette. Voilà ce que ça veut dire, concrètement, le high yield.
Donc, fonds datés, Keren Recovery 2027 fait partie des fonds datés aujourd'hui accessibles, disponibles sur le marché, sur lesquels et qui sont référencés en assurance vie, notamment sur les contrats qu'on propose chez Grisby, hein, que ce soit Grisby Vie ou d'autres contrats d'assurance vie. Keren, tu es modeste, Benoît, mais c'est une société de gestion qui, au-delà de ce fonds daté, a une expertise au niveau de la société de gestion très, très forte sur justement l'obligataire, ce qui n'est pas le cas de toutes les sociétés de gestion aujourd'hui qui lancent des fonds datés.
C'est un peu notre spécialité, puisque comme je l'ai dit, sur 80% de nos encours, c'est ça. Et moi, sur le segment du high yield, bon, je n'aime pas trop mettre en avant, mais c'est vrai que je fais de l'euro high yield depuis 20 ans. Donc, j'ai commencé avec ce marché, puisque ce marché, en fait, a 20 ans d'existence. Le début du marché euro high yield, en fait, c'est le tout début des années 2000, où vous avez eu, en fait, cette mode de désintermédiation des entreprises qui, historiquement, étaient plutôt financées via les banques, et qui sont venus chercher des sources de financement via les marchés financiers et des investisseurs.
D'accord. Tu parlais de performance aussi tout à l'heure. Juste peut-être préciser le niveau de performance.
Aujourd'hui, le fonds... Alors, il y a une chose. Il y a la performance qui a été accumulée... Pardon. Je vais trop vite. Il y a la performance qui a été accumulée depuis le lancement du portefeuille. Donc là, on a lancé le fonds en octobre de l'année dernière, octobre 2022. Aujourd'hui, c'est un fonds qui est un peu plus de 10% de performance. Mais ce qui est intéressant, c'est évidemment le taux de rendement actuariel qui est encore dans le fonds, puisqu'on n'est pas du tout sur les taux de rendement actuariel qu'on a eu en octobre. Là, on est plutôt autour de 6,75. 6,75, ça veut dire quoi? C'est le taux de rendement actuariel brut que vous pouvez espérer en rentrant sur ce fonds jusqu'à la fin, donc 2027, par année. Donc ça, c'est un taux brut. Évidemment, vous devez retrancher les management fees et les frais de contrat.
Et donc, les risques associés à ce fonds?
Alors, les risques, c'est évidemment quand vous investissez sur des entreprises, notamment des entreprises qui sont endettées, c'est le risque de défaut. Et ça, c'est le plus gros risque que vous pouvez avoir. Le risque de défaut, c'est quand votre émetteur n'est plus en capacité soit de vous rembourser les coupons, soit en fait de faire face à la maturité qui arrive, l'échéance qui fait face. Alors, pour pallier ce type de problème, ce qu'on fait dans ce type de fonds, c'est que généralement, vous avez un certain degré de diversification. Vous voyez, nous, on a environ 60 émetteurs aujourd'hui dans le portefeuille, ce qui permet que si vous avez un émetteur ou deux émetteurs qui font défaut, vous allez baisser la rémunération totale du portefeuille, mais vous avez toujours une capacité, en fait, d'encaisser un nombre de défauts assez important et toujours avoir une rémunération positive. Voilà. Ce qui compte, c'est que vous n'ayez pas un taux de défaut qui devienne trop important. Là, c'est un slide illustratif. Quand on avait lancé le fonds, par exemple, on s'était rendu compte que pour avoir une performance de 0 à terme, il faudrait que le portefeuille ait 17 défauts.
Oui, effectivement. Voilà. Ok, très clair. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose, Benoît, par rapport...
Bon, j'ai déjà beaucoup parlé, donc je vais quand même laisser la parole à mes camarades.
Très bien. Hervé, je te laisse prendre le relais sous le prisme, notamment, de la dette privée.
Bien sûr, merci Benoît pour cette première partie. Merci Maxime. Effectivement, je vais vous parler de la dette privée. Peut-être je vais faire un peu de pédagogie. Je pense que c'est toujours utile de rappeler ce que c'est la dette privée. Par opposition avec mon petit camarade d'avant, c'était des obligations cotées. Nous, on est sur du non coté. Donc, c'est la plus grande profondeur qu'on puisse avoir, parce que bien évidemment, il y a majorité de PME non cotées que cotées. Par définition. Et la dette privée, c'est quoi? C'est ni plus ni moins qu'un financement qui est mis par une société donc non cotée pour pouvoir structurer un financement en complément souvent d'un financement bancaire, puisque bien évidemment, un entrepreneur qui a un projet de développement, par exemple de croissance externe, si on prend des exemples concrets, un de Troisième a financé un groupe qui s'appelle Sandaya, que vous connaissez peut-être, qui est un des leaders français de l'exploitation de camping, il fait la croissance externe, donc il rachète tous les ans des actifs, donc des campings. Et pour faire ses acquisitions, bien évidemment, la première chose qu'il va faire, c'est qu'il va aller voir sa banque pour pouvoir se faire financer. Mais comme vous le savez, on le développera juste après, les banques serrent un petit peu les vis au niveau des octrois de crédit. Et donc, du coup, sur un besoin de financement de 100, là où il y a encore quelques années, il arrivait quasiment à se faire financer 80%. Auprès de sa banque, il mettait 20% d'apport en fonds propres. Aujourd'hui, c'est un petit peu moins le cas, on va dire, ça dépend des dossiers. Il se fait globalement financer 50% par du financement bancaire. Lui, il va mettre un peu de fonds propres et il va lui manquer 10-20% qui va, entre guillemets, aller chercher auprès de fonds spécialisés dans l'émission et l'origination, on va dire, de dettes privées pour pouvoir donc parfaire son financement et pouvoir procéder à son acquisition. Donc, c'est ce qu'on essaye de montrer un petit peu sur ce schéma-là. C'est un outil obligataire qui est extrêmement intéressant pour l'entrepreneur puisque c'est une source de financement pour lui qui est non dilutive. Quand vous faites rentrer quelqu'un à votre capital, par définition, vous avez des colocataires, si je peux m'exprimer ainsi. Quand c'est un financement en dette, vous n'êtes pas dilué au sein du capital. Donc, c'est vrai que c'est une source de financement alternative entre le crédit bancaire et l'actionnariat qui est extrêmement intéressante, extrêmement prisée aujourd'hui par les entrepreneurs pour financer leur développement. C'est à peu près 12 milliards, un peu plus de 12 milliards et demi qui ont été élevés en dette privée l'année dernière, donc en hausse de près 15 à 20% par rapport à l'année 2021.
Tu parles, pardon, sur quel périmètre ce montant de...
C'est la dette privée en règle générale.
Là, je parle d'accord, ok.
Français, pardon,
ouais. Marché français, oui, c'est ça.
De dette privée au titre de l'année 2022. Plusieurs raisons expliquent ce succès, entre guillemets, cette levée. Le premier point, c'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est la raréfaction du crédit bancaire qui, encore une fois, se poursuit et mécaniquement oblige les entrepreneurs à aller chercher des sources de financement alternatives, dont la dette privée. Il y a aussi un engouement lié à la hausse des taux, puisque, comme vous le savez, les taux ont remonté, que ce soit les taux bancaires, et donc par répercussion, j'ai envie de dire par effet domino, les taux de dette privée ont également réussi à se pricer encore plus haut qu'ils n'étaient avant. Encore une fois, c'est extrêmement intéressant. On a subi, j'ai envie de dire, la baisse des taux quand les taux bancaires ont plongé. Là, on arrive à repricer à la hausse vu que les taux bancaires se sont rehaussés. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle pour les investisseurs qui souhaitent se positionner maintenant. On arrive à avoir des rendements supérieurs à, j'ai envie de dire, qualité de signature équivalente. Quand je parle de qualité de signature, c'est-à-dire la santé financière de l'entreprise qu'on va financer, qui est plutôt bien évidemment saine, on arrive à avoir un pricing plus élevé sur une qualité de signature équivalente. Troisième point aussi qui explique encore une fois l'intérêt et le contexte pour de hausse des levées sur le marché de la dette privée, c'est aussi que les investisseurs et notamment les institutionnels cherchent entre guillemets à diversifier justement cette poche qu'ils ont dans leur allocation. Et tu faisais, Maxime, référence en introduction à effectivement la partie taux, si on peut l'exprimer comme ça au sens large. Aujourd'hui, les investisseurs souhaitent justement diversifier cette poche de taux, cette poche obligataire, avec effectivement de jolis produits de chez Keren, par exemple, sur des obligations cotées, et puis mettre un peu plus de non-cotés pour aller chercher un petit peu plus de performance puisque, bien évidemment, la dette privée propose des rendements supérieurs aux classes d'actifs et aux obligations cotées. En contrepartie, bien évidemment, vous l'avez compris, d'une illiquidité, c'est sa fameuse prime d'illiquidité qui, effectivement, nous permet d'avoir des performances qui sont supérieures, mais en contrepartie d'une illiquidité. Donc ça, c'est un point très important. Et puis aussi, et pour finir sur ce contexte de marché, il y a un taux de défaut des obligations aujourd'hui en dette privée qui est relativement faible, qui est d'ailleurs plus faible que sur les obligations à yield, lié aussi, encore une fois, à l'expertise. Et tu évoquais effectivement l'expertise très connue, très reconnue de Keren sur la partie obligataire cotée, 1-2-3 IM, et encore une fois, un acteur majeur aussi du financement sur la partie dette privée, avec une très belle expertise, plus de 800 millions d'euros déployés sur cet instrument financier. Effectivement, une partie analyse chez nous qui est extrêmement importante et très longue, puisque, comme je l'évoquais tout à l'heure, quand on finance un projet sur généralement des maturités à 5-6 ans. Donc, on a tout intérêt à se positionner à la fois sur un entrepreneur de qualité, sur un secteur d'activité, on va dire, pérenne dans le temps, générateur de cash flow futur, c'est-à-dire de résultats futurs, pour qu'ils soient en mesure de nous rembourser à la maturité de l'obligation, et puis bien évidemment une PME en bonne santé financière. Et tout ça, c'est un travail d'analyse qui est très profond, qui est très long. C'est pour ça qu'on a, sur 70 collaborateurs chez E3IM, il y a 30 personnes qui sont dédiées à l'investissement, qui sont dédiées à l'analyse des dossiers qu'on va recevoir de la part de nos différents partenaires apporteurs d'affaires. Et malheureusement, sur ces centaines de dossiers, on va en sélectionner qu'un faible pourcentage qui répondent à nos critères d'investissement, notamment ceux que j'évoquais tout à l'heure, à savoir, bien évidemment, la bonne santé financière de l'entreprise, la résilience et la visibilité du secteur, et puis aussi un point qui est très important chez nous, des critères ESG qui sont aujourd'hui extrêmement, extrêmement importants chez nous. Donc, un expert, ce que j'évoquais tout à l'heure de la gestion de la dette privée, à peu près 800 millions d'euros, répartis sur des secteurs qui sont les secteurs de prédilection d'un 2-3IM depuis plus de 20 ans maintenant, notamment le tourisme, c'est pour ça que j'évoquais tout à l'heure un groupe comme Sandaya. C'est également la santé, on l'évoquera juste après, avec une très belle expertise sur notamment le financement du secteur de la pharmacie. C'est également le secteur de l'immobilier, c'est le secteur de la transition énergétique. Donc voilà, notre IM se veut volontairement un multisectoriel, mais voilà, avec des verticales d'investissement très définies, tourisme, santé, immobilier, transition énergétique, sur lesquelles on a développé une très jolie expertise depuis maintenant une vingtaine d'années. Et ça se ressent d'ailleurs dans nos résultats, si je peux m'exprimer ainsi, puisque vous voyez qu'on a un taux de défaut qui est relativement faible. Quand on parle de taux de défaut, c'est que l'émetteur n'a pas réussi à honorer ses engagements en termes de remboursement de l'argent qu'on lui a prêté ou en termes d'intérêt qui nous devait, puisqu'on est globalement à 4% de taux de défaut sur l'ensemble du portefeuille. Et comme vous pouvez le constater, une grosse partie de ces 4%, ce que vous avez sur la partie défaut inférieur à 25%, ça veut dire qu'on a récupéré au moins 75% du montant qu'on a prêté à l'entrepreneur. Donc, c'est des défauts partiels et ça, c'est plutôt intéressant. Et c'est ce qui plaît aussi, encore une fois, aujourd'hui aux investisseurs, qu'ils soient privés ou institutionnels, c'est que l'avantage de la dette, mais ça, c'est lié à l'outil obligataire, qu'il soit coté ou non coté, c'est qu'on a une meilleure protection, bien évidemment, en cas de défaut, puisque si demain l'entreprise périclite ou a des difficultés, le premier qui va être remboursé, c'est bien évidemment la banque, puisque c'est celle qui coûte le moins cher. Donc, en contrepartie, elle a la chance d'être remboursée en priorité. Le second, ce sera le porteur obligataire. Et puis, bien évidemment, en dernier, ce sera l'actionnaire, puisque c'est celui qui, entre guillemets, coûte le plus cher. Donc, il est remboursé vraiment en dernier. Et donc, sur cette échelle de risque, j'ai envie de dire, de pouvoir être remboursé juste après la banque est relativement intéressant dans un contexte qui, on entend parler de récession ou autre, de contexte de marché qui peut être un peu compliqué sur les prochains mois. Pouvoir se positionner sur un outil obligataire permet éventuellement de se parer de secousses qu'on pourrait recevoir ou ressentir, en tout cas sur les différents marchés. Donc, c'est, je pense, en tout cas extrêmement important aujourd'hui de pouvoir investir en dette et le faire, bien évidemment, de manière diversifiée, ou en tout cas la plus diversifiée possible.
Peut-être apporter, j'apporterai juste un complément sur la dette privée. Nous, au niveau du cabinet, ce n'est pas réservé à notre cabinet, mais effectivement, on a de plus en plus de marques d'intérêt, de demandes sur les investissements dans ce qu'on appelle le non-coté au sens large. Et dans le non-coté, on retrouve bien sûr les investissements en equity, en private equity, que ce soit sous forme de venture capital, de capital développement ou de capital transmission, mais évidemment aussi au niveau de la dette privée, de plus en plus de demandes. Et le segment, le métier de la dette privée que vous adressez, Hervé, avec un 2-3e, c'est vraiment le métier qui bénéficie le plus de ce contexte de remontée des taux et qui aujourd'hui a un couple rendement risque qui est vraiment très intéressant, parce qu'en termes de risque, ça n'a strictement rien à voir avec les autres métiers du non-coté, en particulier du venture capital. Donc voilà, je voulais juste repréciser ça, de plus en plus de demandes sur le non-coté. C'est vrai que la dette privée pour les investisseurs non institutionnels, hein, les investisseurs privés, bah, elle prend de plus en plus de place, et je pense que ça a vocation à se développer encore très fortement dans les mois et les années à venir.
Exactement. Il y a quand même du risque, hein, bien évidemment, sur la dette de mon côté.
Oui,
hein,
évidemment.
Le contraire. Mais effectivement, aujourd'hui, il y a un engouement. Mais alors, tu as raison de le mentionner, notamment pour les primo-accédants, j'ai envie de dire, à la classe d'actifs du non-coté, qui veulent, voilà, qui savent qu'aujourd'hui, bah, le fonds euro ne rapporte plus rien, enfin moins, on va dire, l'immobilier, etc. Les rendements sont un petit peu, voilà, s'effritent un petit peu partout. Ils savent qu'ils n'ont pas le choix de se déplacer sur l'échiquier du risque et d'aller vers le non-coté, qui, encore une fois, a la chance historiquement de pouvoir délivrer des meilleures performances que l'ensemble des classes d'actifs, mais en contrepartie d'une liquidité, ce que j'évoquais tout à l'heure. Ils ont envie de le faire, mais ils ont envie de le faire de la manière la plus patrimoniale, pour ne pas utiliser un autre mot, possible. Et c'est vrai que commencer par un fonds en dette, ça a un peu plus de sens, effectivement, que d'aller tout de suite sur un fonds action sur lequel vous avez mécaniquement un risque supplémentaire en contrepartie d'un gain potentiel plus élevé. Nous, chez notre troisième, on sait vraiment et on se veut, parce que ça correspond à l'ADN de nos clients, qu'ils soient privés ou institutionnels, d'avoir cette approche plutôt patrimoniale, c'est-à-dire aller chercher un rendement qui va être plus faible, mais en contrepartie d'un risque qui va être pris en face, qui va être également plus faible. Juste un dernier point, parce que c'est quand même important, sans rentrer trop dans le détail de la technique, mais je trouve que c'est toujours intéressant de le voir aussi. C'est un outil qui est intéressant, la dette et l'obligation, puisque si on prête, par exemple, si je reprends mon exemple concret tout à l'heure du groupe Sandaya, je vais lui prêter, par exemple, 10 millions d'euros pour qu'il fasse des acquisitions de camping un petit peu partout sur le littoral français. Cette dette, je vais lui prêter 10 millions, il y aura un taux fixe ou taux variable, ça dépend, et il y aura une maturité, c'est-à-dire une échéance qui est fixée à horizon, par exemple, 4 ans. Et au-delà de cette date-là, il refait un financement bancaire pour pouvoir nous rembourser. Sur ce taux de 10%, il y a 4 à 5% qui sont distribués tous les ans aux investisseurs et 4 à 5% qui sont capitalisés. Ce qui fait que plus on avance dans le temps, plus on se dérisque, entre guillemets, puisqu'on reçoit, j'ai envie de dire, un coupon, pour parler très clairement, tous les semestres. Et donc ça, c'est extrêmement intéressant aussi pour l'investisseur. Il y a une réalité derrière et il y a un dérisque qui se fait progressivement, puisque tous les semestres, il perçoit donc un coupon sur son investissement.
Un mot sur Uniforma 3 peut-être ?
Exactement. Donc je voulais dire le troisième spécialiste de l'investissement en dette privée sur les segments très définis, et notamment une de nos practices, c'est sur l'univers de la santé et plus précisément sur le marché des officines de pharmacie. Les officines de pharmacie, donc c'est la pharmacie de quartier pour faire très simple. C'est un marché de plus de 40 milliards d'euros en France. Il y a 20 000 pharmacies avec un chiffre d'affaires moyen d'1,9 million sur ce marché. Aujourd'hui, vous avez une problématique de transmission des pharmacies, puisque certaines pharmacies qui font entre 5 et 20 millions de chiffre d'affaires. Donc globalement, c'est à peu près 3 000 pharmacies sur les 20 000. Aujourd'hui, elles sont détenues par des pharmaciens qui vont faire valoir leur droit à la retraite dans les prochaines années. Et il faut donc transmettre ces actifs-là à de nouveaux pharmaciens, de jeunes titulaires. Et c'est là où on intervient, parce que les banques, elles sont un peu grippées sur le financement de ces grosses opérations. Elles ont l'habitude de financer des transmissions d'officines de pharmacie de taille modeste, on va dire, c'est-à-dire aux alentours de 2 millions d'euros, pour faire très simple. Quand on commence à aller sur des objets de taille plus significative, elles sont un petit peu plus frileuses, ou du moins elles ne prêtent pas toute l'intégralité du besoin. Et c'est là, effectivement, où on va intervenir sous forme de dette. On va aller compléter le financement du pharmacien pour pouvoir racheter une officine de taille significative, c'est-à-dire une officine qui vaut entre 5 et 15, 20 millions d'euros. Et donc, c'est toute la stratégie du fonds Uni3, troisième millésime, comme son nom l'indique, qui a vocation, donc, sous forme de dette, à financer une quarantaine d'officines un petit peu partout sur le territoire national, de taille significative, c'est-à-dire qu'on va vraiment se concentrer sur les officines qui font, allez, on va dire, entre 3,5, 4 millions et 20 millions de chiffre d'affaires. Donc, on est vraiment sur les très grosses pharmacies. Et nous, ce qu'on aime bien sur ce secteur-là, c'est que c'est un secteur qui est très protégé. Il y a un numerus clausus, comme vous le savez, on ne peut pas, à nous tous autour de ce téléphone, monter une pharmacie demain, c'est très encadré. C'est un secteur qui est historiquement en croissance, qui est très résilient et qui connaît un taux de défaut qui est extrêmement faible, puisque le taux de défaut, il est à 0,2% et principalement sur des officines de petite taille, c'est-à-dire à moins d'un million d'euros de chiffre d'affaires, ce qui n'est pas notre cible. Donc, c'est vrai qu'on est extrêmement confiant sur le secteur. Ça fait plus de 10 ans qu'on le finance. On a un excellent track record, puisqu'on a presque une vingtaine de sorties déjà réalisées. Et donc, on propose aux investisseurs qui le souhaitent, effectivement, de rentrer sur ce véhicule de dette privée, donc diversifié sur une trentaine d'officines. On va viser un rendement de 7,5% net investisseur, dont 4% qui sont distribués tous les ans sous forme de coupons, donc 2% par semestre aux investisseurs. Et le reste est capitalisé, payé à l'échéance du produit, qui est donc à 4 ans. Donc voilà, c'est une solution que je trouve tout à fait pertinente pour les clients qui veulent donc investir sur la classe d'actifs d'un côté, sur un secteur historiquement porteur et résilient, et avec quand même une belle visibilité, puisque, et je finirai là-dessus, vous le savez, post-Covid, le rôle du pharmacien a été grandement renforcé. C'est le premier interlocuteur de santé aujourd'hui. C'est le seul qui est disponible à tout moment, 6 jours sur 7, sur des horaires de 8h à 20h. Il fait du dépistage, il fait de la vaccination. Demain, de plus en plus de ces pharmacies vont accueillir des cabines de téléconsultation pour faire notamment essayer de parer les déserts médicaux que vous avez un petit peu partout en France. Donc, tout ça va mécaniquement drainer, en plus des clients traditionnels qui viennent avec l'ordonnance, bien évidemment, de nouveaux clients. Et après, aux pharmaciens, entre guillemets, d'équiper ses clients avec des produits un petit peu plus margés, notamment la parapharmacie, etc. Donc voilà, je trouve que c'est un joli support pour les clients qui veulent, entre guillemets, tenter la dette privée sur un secteur qui parle à tout le monde et qui a montré encore une fois historiquement sa résilience ces dernières années.
Merci Hervé, je te relaie une question là qui vient de nous être posée sur la durée d'investissement moyenne sur la dette privée. Là, on voit que sur ce produit Uni3, c'est 4 ans. Est-ce qu'on est dans la norme? Est-ce que c'est un peu plus court que la moyenne? Est-ce que tu peux dire un mot là-dessus?
Non, globalement, alors nous, historiquement, sur les 18 sorties, pour être précis, qu'on a déjà réalisées sur le secteur de la santé et des pharmacies, on a été remboursé au bout de 3 ans et demi en moyenne. C'est à peu près ça, je dirais 4 ans. Encore une fois, il faut quand même que l'entrepreneur ait le temps de mettre en place son BP, de réaliser son BP. Et généralement, effectivement, il se fait refinancer au bout de 2-3 exercices complets. Il retourne voir sa banque en disant, voilà, ça fait 3 ans que j'ai racheté cet actif, que j'ai monté ce business-là. Ça marche plutôt bien. Est-ce que je peux me faire refinancer pour pouvoir rembourser l'obligation que j'ai auprès d'un autre OIM? Globalement, c'est à minima 3 ans, et puis c'est entre 3 et 5 ans, on va dire.
Ok, bah très bien, très clair. Merci beaucoup, Hervé. On a vu le marché de l'obligataire coté avec Benoît, la dette privée avec Hervé. On va adresser une autre opportunité avec Gustave d'Equity. Je te laisse la parole, Gustave.
Merci beaucoup, effectivement, messieurs, pour cette introduction sur la partie macro. Pour présenter un peu Equiteam, qu'est-ce qu'on fait? En fait, on est créateur de solutions d'investissement sur mesure et donc de produits structurés depuis 2007. Donc, aujourd'hui, c'est 5 milliards, même maintenant, on peut le dire 6 milliards de produits traités, 3000 produits sur mesure. Donc, nous, on est un conseiller indépendant, donc c'est-à-dire qu'on ne vend pas de produits structurés, mais notre idée, c'est de les concevoir sur mesure pour les clients. Donc, on est spécialiste dans la création dans la distribution de produits structurés. Je reviendrai après sur le petit détail de qu'est-ce qu'un produit structuré, parce que c'est vrai que c'est important, on en parle beaucoup, mais c'est toujours important de rappeler les bases. Et nous, notre but, c'est de mailler toute cette chaîne. Et à l'inverse, notamment d'une banque qui va proposer ses 2-3 produits en magasin, nous, on en a créé 650 l'année dernière, c'est ce qu'on en va en 2022, pour 1,2 milliard de collectes. Donc, c'est vraiment du sur-mesure à la demande. On distribue ces produits via des partenaires tels que Grisby, notamment, pour des solutions pour les clients finaux. Donc, en fait, nous, notre process, c'est de vous accompagner. Donc, quand on dit vous accompagner, c'est à l'inverse de distribuer un fonds, c'est de comprendre les besoins de chaque client, de chaque partenaire, du rendement souhaité, du risque embarqué, des thématiques envisagées pour concevoir une solution. Donc, ça fait 15 ans qu'on fait ça. Donc, c'est ce qu'on voit ici, donc élaboration de la stratégie d'investissement. Ensuite, on va commercialiser le produit pour le mettre en avant, pour que le client fasse ses souscriptions. Et après, notre métier, comme c'est un contrat qui est défini à l'avance, c'est de faire le suivi rigoureux du produit en ayant tout un process de reporting assez pertinent pour qu'on puisse suivre la vie, entre guillemets, de nos solutions sur mesure. Donc nous, aujourd'hui, on est une équipe de 25 personnes avec des ingénieurs qui créent ces solutions et une partie telle que moi responsable des partenariats qui s'occupe de la partie vraiment réflexion, cahier des charges, idées, thématiques. Voilà. Ensuite, peut-être pour rentrer dans le vif du sujet, qu'est-ce qu'un produit structuré ? Donc, à l'inverse de mes confrères, nous, on n'est pas gérant de fonds, on crée des solutions sur mesure. Donc, en fait, aujourd'hui, qu'est-ce qu'un produit structuré ? Un produit structuré, à l'origine, c'est émis par une banque, c'est l'équivalent d'une obligation d'une banque. Donc, l'inverse, c'est un crédit immobilier, c'est-à-dire que là, c'est vous qui allez être rémunéré pour l'argent que vous déposez à la banque. Donc, aujourd'hui, une obligation d'une banque, ça rapporte 3 à 4 %, on peut en proposer. Et un produit structuré, c'est d'aller rajouter des mécanismes sur cette obligation pour avoir un rendement souhaité selon un risque. Donc, l'avantage, c'est qu'on connaît le scénario à l'avance. On a notre contrat qui est défini. C'est une gestion passive, donc on n'a pas à suivre. C'est-à-dire que le contrat est défini à l'avance. On sait quand est-ce que le produit peut être remboursé, à quel rendement, comment fonctionne ce produit. On peut, donc, l'avantage, c'est qu'on peut protéger ce rendement. On peut même protéger totalement, partiellement, pour aller chercher plus de rendement selon les besoins du client. Après, effectivement, il y a des inconvénients. C'est que on peut avoir un gain limité. Si par exemple, le sous-jacent fait plus 50% et qu'on a un contrat qui nous rémunère 10%, ça peut être un peu… effectivement, on a un gain qui est limité. Un risque de maturité longue et un risque de perte en capital, car en fait, bien sûr, ce n'est pas Equitine qui émet ce produit, mais c'est un émetteur, on le voit en bas, c'est des émetteurs tels que Société Générale, BNP Paribas, Natixis, des banques américaines, des banques françaises. Donc, c'est ces émetteurs qui délivrent ce contrat qui est connu à l'avance. Donc, en fait, dans les faits, qu'est-ce que ça peut être ? C'est de dire, bon, bah, on a une composante obligataire qui est l'obligation zéro coupon. Donc on dit composante obligataire à 80-90% qui va être la sécurisation de notre capital. Et ensuite, on va ajouter des thématiques. Par exemple, en disant bah, « j'aime bien l'automobile aux États-Unis », on va ajouter sur cette obligation une composante automobile aux États-Unis. On peut garantir notre capital ou bien le protéger pour avoir plus de rendement. Ainsi de suite, on peut donc, comme on le voit au fur et à mesure de cette slide, c'est connu à l'avance, donc on va découvrir le sous-jacent, est-ce qu'on va mettre une action derrière ? Est-ce que ça va être un panier d'actions ? Est-ce que ça va être, par exemple, notamment les taux ? On en a parlé tout à l'heure et on le verra après qu'un des produits pertinents qu'on a en ce moment, donc on peut avoir un sous-jacent taux, donc on va être corrélé à ce sous-jacent-là. Et ensuite, l'idée, c'est de choisir une maturité, une durée. Est-ce que ce contrat peut être rempli rapidement, être remboursé rapidement ? C'est le principe d'autocall qu'on entend souvent. La devise, le niveau de risque et les stratégies si on veut avoir du rendement en complément de revenus, si le but c'est de maximiser la performance. Voilà, donc nous aujourd'hui, notre but c'est vraiment de faire des solutions sur mesure selon les besoins des clients finaux et on le fait tout ça par le biais de nos partenaires tels que Grisby en adéquation avec le marché. Donc en fait, on a vraiment deux volets, c'est comprendre nos clients et ensuite nous, à l'instant T, trouver les meilleures idées. On a 5 structureurs chez nous qui s'occupent de ça, de trouver les meilleures idées à l'instant T, trouver le meilleur produit. Le meilleur produit, c'est celui qui donne le le meilleur rendement avec le moins de risque possible. C'est ce qu'on cherche. Et donc, c'est l'idée d'aujourd'hui, ce qu'on essaye de proposer. Si on rentre dans le vif du sujet, aujourd'hui, le produit qu'on met en avant grâce à Grisby, c'est un produit qui joue la pente des taux. Donc, point très fort, le produit est 100% capital garanti à maturité, hors défaut de l'émetteur, donc bien sûr défaut de la banque. L'émetteur, c'est Société Générale. Et en fait, si je reviens sur cette histoire de pente des taux, c'est le graphique que vous voyez sur la droite, le capital est garanti. Et aujourd'hui, la pente des taux, on dit que la pente des taux est inversée. Donc en fait, le graphe qu'on voit ici, c'est les taux 30 ans vs les taux 5 ans. Quand on dit qu'aujourd'hui, la courbe des taux est inversée, c'est-à-dire qu'on est mieux rémunéré à bloquer son argent à 5 ans vs à 30 ans. Ce qui est effectivement pas normal, car quand on bloque 30 ans, on est censé être mieux rémunéré. Aujourd'hui, c'est cette action des banques centrales qui fait augmenter les taux courts, alors que les taux long terme, on a forcément moins de visibilité, restent à peu près stables.
Juste pour compléter, effectivement, quand on parle de pente des taux inversés à travers le graphique qu'on voit ici, c'est quand le graphique passe sous la courbe, passe sous les zéros, en fait le zéro. C'est à partir de ce moment-là où effectivement les taux court terme, 5 ans, sont plus chers que les taux long terme.
Exactement. Exactement. Donc on le voit en fait selon le graphique. À part en 2008, il y a eu une anomalie de marché. Aujourd'hui, pour nous, on est dans une anomalie de marché, comme je l'ai dit, car la pente est inversée. On est mieux rémunéré à 5 ans qu'à 30 ans. L'idée ici, c'est donc de jouer cette thématique. Et nous, contrairement à mes confrères, on n'est pas gérant de fonds, donc on ne va pas aller chercher de la performance. C'est-à-dire qu'on veut vraiment s'adapter. Donc ici, c'est de dire on joue une normalisation de l'économie. Donc on est capital garanti, hors défaut de l'émetteur. Le produit peut durer 10 ans maximum. Et on va aller chercher ce contrat rempli au bout de la troisième année. Donc on a l'équivalent de 2 fois 7,5 de rendement qui sont garantis les deux premières années, le temps de laisser les taux remonter. Et la troisième année, notre but, c'est que, comme on le voit sur le graphique, la pente soit au niveau du niveau vert, au niveau de la barre verte. Donc actuellement, on voit qu'elle est à moins 0,50. Dès qu'elle est au-dessus de 0,75, le produit s'arrête, le contrat est rempli et on est remboursé l'équivalent de 16,50% au bout de 3 ans, ce qui fait un rendement autour de 5,5-6. Voilà l'idée aujourd'hui, on joue vraiment une normalisation de l'économie sur un produit qui est défensif, parce qu'il permet justement il est capital garanti.
Ce qu'on peut dire également, pour contextualiser, c'est que cette situation, tu parles d'anomalie effectivement aujourd'hui, avec cette inversion d'un pente des taux. C'est une situation, là on voit le graphique qui remonte quand même sur les 20 dernières années, qui est rarissime avant 2022. On le voit juste un tout petit peu en 2008-2009, sinon on est toujours au-dessus de zéro. Donc c'est un produit qui est disponible depuis peu. C'est écrit dans la fin de commercialisation, c'est le 28 juillet 2023. Donc il y a une fenêtre de tir actuelle pour accéder à ce type de produit qui se démarque de ce qu'on pouvait proposer les années précédentes. C'est vraiment un produit qui s'appuie sur cette situation assez extraordinaire d'inversion de pente des taux. On ne sait évidemment pas combien de temps ça va durer, mais peut-être que, je ne sais pas, dans quelques semaines, dans quelques mois, on repassera la barre des zéros et cette typologie de produit ne sera plus du tout proposée. Hein, c'est bien ça, Gustave?
Oui, exactement. Tu l'as très bien dit aujourd'hui, et comme le disait tout à l'heure en introduction Benoît, la pente des taux, les taux vont peut-être pas baisser tout de suite. Donc c'est pour ça qu'on se laisse 2 ans avec un coupon qui est garanti. Pour ensuite, en troisième année, aller chercher cette normalisation. Et c'est ce que Maxime l'a bien dit, c'est effectivement le délai entre guillemets assez court, jusqu'au 28 juillet, pour souscrire, parce qu'on n'est pas sûr que d'ici là, la courbe ne va pas commencer à s'inverser, ou du moins qu'on n'ait plus des conditions aussi favorables.
Si certains d'entre vous peuvent être intéressés par ce produit, nous, on a une conviction très forte au niveau du cabinet Grisby sur l'intérêt et la qualité du produit proposé par Equitim, bien sûr. Moi-même et l'ensemble des conseillers, on est à votre disposition pour vous apporter des compléments d'information et répondre bien sûr à vos questions. C'est une opportunité d'investissement. Le capital est garanti, il faut le noter, hein, parce que c'est assez rare dans le monde des produits structurés. Évidemment, on sera là pour vous apporter tout complément d'information, mais il nous semblait chez Grisby que ce soit intéressant pour vous, en complément de l'éclairage et du regard de Kieren et d'André Troyem, respectivement sur le monde obligataire coté et les fonds de dette privés, de vous apporter. On peut également, grâce au contexte obligataire actuel, saisir d'autres opportunités et qui sont très complémentaires de ce qu'on vient de voir précédemment. Je parlais de diversification à l'introduction. Rien n'empêche d'investir à la fois sur un fonds daté de Kieren, sur un fonds de dette privée, par exemple une I3 de 1, 2, 3 IM, et sur ce produit Tarn, qu'on appelle Tarn, juillet 2023, d'Equitim. On s'appuie globalement sur le monde obligataire, mais les risques sont différents. Et on met un pied dans le monde dans l'obligataire, pardon, mais à travers différentes solutions très, très complémentaires. Alors, j'ai une question. Que faudrait-il qu'il se passe pour que le produit nous oblige à rester 10 ans? C'est pour toi, Gustave.
Très, très bonne question. Effectivement, aujourd'hui, le risque du produit, c'est celui-ci. Moi, j'aime bien, entre guillemets, mettre ça en avant. C'est de le mettre en avant par les risques. Notre risque, c'est de rester 10 ans dans le produit, donc bloqué, et d'avoir touché que 15%, donc l'équivalent de 1,50 par an, ce qui ferait que même dans un contrat d'assurance vie, on serait au-dessus de 100, au-dessus du niveau initial. Donc, c'est vraiment le risque du produit. Effectivement, pour que les… alors, je n'ai pas de boule de cristal, malheureusement, mais pour que ce produit aille à maturité et dure 10 ans, il faudrait que cette pente des taux reste inversée et que les taux courts, du moins sûrement que la BCE continue de faire augmenter les taux courts et que dans ces cas-là, les taux 30 ans ne suivent pas comme actuellement. Dans un contexte d'inflation continue, ça peut être le cas. Et après, sinon, effectivement, si ça dure plus de 3-4 ans, on aura sûrement d'autres sujets que notre investissement. C'est pas périn pour des pays développés comme les nôtres, après, si.
Mais surtout sur l'endettement.
Oui, oui, d'ailleurs, ça rejoint une autre question, peut-être pour toi, Benoît, sur les perspectives en matière d'évolution des taux que vous voyez, vous, chez Kieren, sur le deuxième semestre 2023 et au-delà, hein, sur 2024, comment vous envisagez les choses, ce qui peut effectivement apporter un complément de réponse par rapport à ce qui nous est demandé. Est-ce qu'on peut, en théorie, effectivement, rester 10 ans? En réalité, c'est hautement improbable. Et c'est pour ça qu'Equitim a bâti ce produit. C'est pour ça que nous, chez Grisby, on est convaincus par celui-ci et qu'on le distribue aujourd'hui.
Structurellement, ça me semble déjà impossible. Donc, je vais aller dans le sens de Gustave, puisqu'en fait, une courbe des taux, que ce soit de crédit ou de taux, c'est en fait vous renoncez à une consommation immédiate parce que vous avez un excès d'épargne et vous transférez cet excès d'épargne à un acteur qui a un besoin d'épargne. Donc plus le temps est long, plus l'incertitude est importante, plus donc il est normal que vous soyez rémunéré. Donc les situations d'inversion des courbes de taux sont des situations exceptionnelles dans le monde de la dette. Ce n'est pas des situations normales. Nous, ce qu'on pense, c'est que les marchés aujourd'hui sont en avance sur les perspectives de récession, puisqu'on a quand même des indicateurs avancés qui tendent à dire qu'une récession est possible, et on a beaucoup de signaux contradictoires qui arrivent. Mais ce qui convient, à mon avis, de bien écouter, c'est le discours des banquiers centraux. Et le discours des banquiers centraux sur l'année 2023, il est très clair. La priorité est la lutte contre l'inflation. Et la lutte contre l'inflation est prioritaire à un risque de récession. Donc, ce qu'ils ne veulent pas, c'est rentrer dans une spirale inflationniste qu'on a eue à la fin des années 70, début des années 80, qui était quand même très difficile à faire revenir. Hein. On dit souvent que l'inflation, c'est un peu comme le tube de dentifrice. Une fois que vous avez appuyé dessus, ça sort, mais pour la faire re-rentrer, c'est extrêmement difficile. Là, c'est typiquement ce qu'ils ne veulent pas vivre. Donc là, ils vont être assez, à mon avis, méchants sur les taux courts pendant quelques temps, pour justement stopper ces effets d'inflation et aussi les effets richesse. Schématiquement, ensuite, ce qui devrait se passer, c'est que vous retombez sur des taux long terme qui sont votre potentiel de croissance. Et on sait que le potentiel de croissance des pays développés, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, pour des questions de démographie, pour des questions de capacité de gain de productivité, toutes ces choses-là sont relativement limitées et probablement pas très au-delà de 2-3%. Voilà, ça vous donne une idée de où devrait atterrir à la fois l'inflation et des taux long terme, si les choses
sont... À quel horizon, Benoît, vous pensez ?
Alors nous, ce qu'on pense, c'est que la normalisation de l'inflation va prendre entre... elle a commencé, hein, vous l'avez vu sur le graphique, on est déjà en train de décélérer. On voit pas trop d'effet de second tour sur les salaires. On commence à voir d'ailleurs que la spirale inflationniste sur les salaires commence à être un peu plus moins marquée qu'elle n'a été les derniers mois, parce que les entreprises commencent à avoir un peu plus de difficultés. Donc je pense que les hausses salariales vont continuer, mais beaucoup plus graduellement que ce qu'elles ont eu les 12 derniers mois. Nous, on pense que la normalisation de l'inflation, ça va prendre encore 12 à 18 mois, schématiquement. Et ensuite, ce qui fera varier ou pas l'accès des banquiers centraux pour rebaisser les taux, c'est le niveau implicite de récession. Si vous n'avez pas de récession, globalement, les taux pourraient rester relativement élevés encore pendant un an ou deux. Sur la partie courte, la courbe de la courbe. Hein. Je pense qu'on ne l'a pas rappelé, mais c'est important de le dire. Les banquiers centraux pilotent uniquement la partie courte de la courbe et pas la partie longue.
Oui, très bien. Très important, effectivement. Gustave, peut-être une question pour revenir et conclure sur le produit terme juillet 2023. Quel est le principal risque ? On parlait de capital garanti, bien sûr, mais il y a quand même un risque. Est-ce que tu peux l'évoquer en quelques mots ?
Le risque, je l'ai évoqué en amont, c'est effectivement le défaut de l'émetteur. Oui. C'est donc le défaut de la banque. Donc la banque ici, c'est Société Générale. Un produit structuré, c'est de la dette senior non-preferred. Donc c'est l'avant-dernier niveau de dette. Donc, il faudrait que Société Générale fasse défaut. Et par exemple, si on prend le cas concret dont tout le monde a parlé récemment de Crédit Suisse, c'est-à-dire que, disons, si on prend 5 niveaux de dette, Crédit Suisse a uniquement utilisé ce premier niveau de dette et a été ensuite absorbé par UBS. Donc, on en est loin. Il faudrait vraiment que Société Générale fasse défaut. Sinon, au-delà de ça, le produit est capital garanti à maturité. Et je le répète comme tout à l'heure, le vrai risque de cette solution, c'est de rester 10 ans et d'avoir touché 15% de coupons, donc l'équivalent d'un 50 par an, ce qui serait finalement pas catastrophique, mais pas un investissement très rentable. Nous, on joue vraiment une normalisation de l'économie, comme la courbe des taux et de l'économie, comme a dit Benoît, à 2 ans. Et donc, en troisième année, le contrat soit rempli pour être remboursé avec un rendement de 16,50 sur 3 ans.
Parfait, merci, très clair. On va s'arrêter là. Merci une fois de plus à tous les trois, Benoît, Hervé et Gustave, pour vos présentations très intéressantes. Une fois de plus, chez Grisby, on était très heureux de mettre en avant aujourd'hui cette classe d'actifs, l'obligataire. Pensez-y, si vous n'avez pas un pied investi sur cette thématique, évidemment, on est là chez Grisby pour vous apporter des compléments d'informations, pour vous aider et pour compléter à diversifier votre patrimoine, ce qui est évidemment clé et essentiel pour la suite. Vous le savez, ce webinaire sera très vite accessible également en replay. N'hésitez pas à le revoir si vous n'avez pas pu assister à l'intégralité de ce webinaire ou à le communiquer à des proches qui pourraient être intéressés. Merci à tous et je vous dis à la prochaine fois.
Merci beaucoup. Au revoir.
Au revoir.